Bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. On continue ce matin notre série commencée il y a quelques semaines dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est au cœur de la foi chrétienne, la naissance de Jésus-Christ. Quelques mots d'introduction avant. On a vu il y a quelque temps donc cette généalogie qui démarre un peu cette biographie de Jésus-Christ faite par Matthieu. Et toute généalogie bien faite, en général, va faire ressortir certains traits, certaines indications utiles pour bien comprendre la vie de celui dont on fait la biographie. Et si on repense à ces versets 2 à 16, donc qui constituent la liste généalogique des ancêtres de Jésus, nous voyons cette forme répétitive, A a engendré B, qui a engendré C, etc., ainsi de suite. Et de temps à autre, il y a quelques détails qui sont donnés. Et cette répétition qui se fait sans faille va être interrompue au verset 16. Je vais lire verset 16 de Matthieu chapitre 1, alors il ne sera pas affiché, parce que ce ne sera pas notre texte principal ce matin, mais je lis au verset 16, Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ici, la répétition, comme je l'ai dit, va être interrompue puisque Joseph ne nous est pas présenté comme celui qui a engendré Jésus. Joseph est engendré par Jacob. Jacob est engendré par Matthan. Et si on remonte, chaque homme mentionné a engendré, à l'exception de Joseph. Et c'est comme si Matthieu ici nous donnait déjà un indice sur ce Jésus, fils de David, fils d'Abraham, comme il l'appelle au verset 1. Et le titre de la prédication de ce matin, tout simplement, La naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Ce sont les versets 18 à 25 qui vont occuper notre temps et notre attention ce matin. Et je commencerai par l'affirmation suivante. Il n'est pas possible d'être véritablement chrétien tout en niant ou en rejetant cet événement historique de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Autrement dit, on ne peut pas se dire disciple de Jésus, réconcilié avec Dieu, et en même temps rejeter l'affirmation biblique de la naissance miraculeuse de Jésus. Une précision de plus, je fais la différence ici entre l'ignorance et l'incrédulité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le brigand à la croix n'avait certainement, en tout cas très probablement, aucune idée de cette naissance miraculeuse. Pourtant, Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Donc, ce n'est pas la même chose d'ignorer un fait concernant Jésus que de le rejeter. Une fois qu'on en a entendu clairement parler dans les Écritures. Vous voyez la nuance? Et donc nous ne sommes pas, nous, dans la situation du brigand, et c'est même quelque chose de notoriété mondiale, pas simplement publique, que la foi chrétienne a pour fondement, un des fondements, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien ce matin, j'aimerais vous dire très personnellement que vous avez de très bonnes raisons de croire en ce miracle. Nous allons voir trois choses ce matin. D'abord, une triple affirmation, puis une double réfutation, et enfin une simple explication. Une triple affirmation de la naissance miraculeuse de Jésus, une double réfutation de doutes que l'on pourrait émettre concernant la naissance miraculeuse de Jésus. Et enfin, une simple explication de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Lisons ensemble les versets 18 à 25, et je vais lire ce matin dans la version, dans la traduction Darby. Et pour ceux qui tremblent en entendant cela, vous verrez qu'elle n'est pas si terrible. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. » Ce qui, interprété, est « Dieu avec nous ». Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut point, c'est-à-dire qu'il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Et il appela son nom Jésus. Jusqu'ici la parole de Dieu. Premièrement donc, une triple affirmation de la naissance miraculeuse de Jésus. Jésus a été engendré, c'est ce que ce texte affirme, il a été conçu en Marie par le Saint-Esprit sans l'intervention d'un homme. Autrement dit, Jésus a une mère humaine, mais il n'a pas de père, biologiquement parlant. Peut-être pour entrer un peu plus dans le détail, il y a des gamètes féminins, femelles, qui ont été employées par Dieu pour la naissance du Christ, ceux de Marie, mais il n'y a eu l'emploi d'aucune cellule mâle de reproduction. Jésus a une mère biologique, mais n'a pas de père. Et cela est affirmé à trois reprises dans notre texte. Il y a une triple affirmation de ce miracle. Première, regardez avec moi verset 18. Nous avons d'abord la parole d'un apôtre. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, sa mère Marie étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, c'est-à-dire avant qu'ils ne vivent sous le même toit, avant qu'ils aient consommé le mariage, se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Ici, c'est la parole de Matthieu, n'est-ce pas ? C'est la narration. Et nous devrions écouter le témoignage de Matthieu en tant qu'il est apôtre. Pour rappel, un apôtre, c'est un de ces hommes qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même afin d'être, par leur enseignement, le fondement, la fondation de la foi chrétienne, de l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église, dès le début, a eu cette discipline spirituelle saine et édifiante de persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme on le lit dans Actes chapitre 2. Chaque jour, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. De plus, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, mais Matthieu, en tant qu'apôtre, bénéficie d'une promesse toute particulière. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit aux apôtres, à l'exception de Judas qui était déjà parti, « Il y a des choses que vous ne pouvez pas encore comprendre maintenant, mais l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous dira toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. » Autrement dit, il leur promet que l'Esprit-Saint leur donnera la capacité d'enseigner de manière autoritaire et infaillible la vérité concernant Jésus-Christ. Et dans ce verset 18, nous avons donc la parole d'un apôtre. Première affirmation. Deuxième affirmation, verset 20. Cette fois-ci, ce n'est plus la parole d'un apôtre, mais la parole d'un ange. Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Ici, on ne nous donne pas le nom de cet ange. Alors peut-être est-ce l'ange Gabriel, c'est possible. Dans Luc, nous avons cette précision que l'ange qui apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, puis à Marie, se nomme Gabriel. Ici, l'apôtre Matthieu ne précise pas, c'est une possibilité, mais en tout cas, il s'agit de l'un de ces esprits très purs, très parfaits, c'est-à-dire sans défaut, qui sont au service constant de Dieu dans son projet bienveillant de bénir son peuple. Les anges, nous dit Hébreux 1, verset 14, ils sont des serviteurs de Dieu envoyés pour aider les croyants à recevoir le salut. Dans le même chapitre de Hébreux, chapitre 1, donc versets 6 et 7, on nous dit aussi que ces anges, les anges élus, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, rendent à Dieu une adoration et une obéissance parfaite. Autrement dit, il serait inconcevable qu'un ange du Seigneur, comme il est désigné ici, puisse venir donner une information qui ne soit pas directement une parole venue du trône de Dieu. Ce sont des gens, des anges serviteurs de Dieu, des esprits très purs au service de l'Éternel. Et donc, c'est ici la deuxième affirmation. Nous en venons à la troisième affirmation, verset 23. Nous n'avons cette fois-ci pas la parole d'un apôtre, ni celle d'un ange, mais la parole d'un prophète de l'Ancien Testament. Je lis, même prenons à partir du verset 22, « Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. » Ici, il s'agit d'une prophétie faite par le prophète Ésaïe. On la trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 7. Et à l'époque du prophète Ésaïe, le royaume de Juda a à sa tête quelques-uns des ancêtres de Jésus, dont on a lu d'ailleurs le nom dans la généalogie, il y a quelques semaines. Notamment, il est prophète à l'époque du roi Ozias, de son fils Jotham, si vous regardez au verset 9, de son fils Akaz, etc., etc. Et cette prophétie se fait plus précisément à l'époque d'Akaz. C'est un contexte de grande détresse spirituelle. Le roi Akaz commet des atrocités en lien avec l'idolâtrie. Le culte de l'Éternel a été complètement jeté à terre, et le royaume de Juda est en proie à des tensions aussi extérieures, puisqu'il y a deux royaumes qui s'apprêtent à l'attaquer. Et voilà que le prophète Ésaïe se présente à Akaz et lui dit « Votre salut ne dépend que d'une chose, la repentance et la confiance en Dieu. » Et il va même encourager le roi à revenir à Dieu en lui disant « Demande un signe, demande à Dieu un signe. Que ce soit haut dans le ciel ou plus bas que la terre, un signe qui viendrait fortifier ta foi et t'aider à te confier en l'Éternel. » Et le roi Akaz, tellement, engagé dans son opposition contre Dieu, va refuser de demander un signe. Et Ésaïe, un peu furieux, lui dit, « Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous troubler la tranquillité des hommes ?» pour qu'en plus tu troubles mon Seigneur, eh bien voici le signe. Et à ce moment-là, il lui donne cette prophétie. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Certainement, Akaz et Ésaïe n'étaient pas conscients comme nous que cette prophétie aurait un accomplissement seulement quelques siècles plus tard. Mais si je vous donne cette information, c'est parce que Ésaïe est un homme qui parlait de la part de Dieu. Comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, ce n'est jamais par initiative humaine qu'une prophétie a été donnée, mais de saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient poussés, nous dit l'apôtre Pierre, par l'Esprit de Dieu. Et je conclus cette première partie en disant que finalement, ici, nous voyons que Dieu a parlé trois fois en quelque sorte, par l'apôtre Matthieu, par l'ange et par Ésaïe. Le ciel et la terre sont d'accord. Les hommes et les anges ne parlent que d'une seule voix. Jésus-Christ est né miraculeusement. Et je le dis rapidement en passant, mais c'est aussi validé par Jésus lui-même. Jésus cite les prophètes, et notamment Ésaïe, comme étant la parole de Dieu. Jésus s'oppose à certains groupes religieux de son époque qui ne croyaient pas aux anges, et Jésus leur dit « les anges existent ». Et enfin, Jésus lui-même envoie ses apôtres pour enseigner. Il y a une leçon ici, en tout cas un encouragement pour nous, je crois. Nous pouvons avoir une grande confiance, et c'est même tout à fait logique, une fois qu'on a vu ça, de recevoir avec foi, avec confiance, la vérité biblique de la naissance miraculeuse de Jésus. La corde à trois brins ne rompt pas facilement. Et ici, nous avons trois brins qui sont plus que solides. Un apôtre, un prophète et un ange. Mais au cas où il demeurerait peut-être quelques doutes, nous allons voir que le texte nous offre non seulement une triple affirmation, mais aussi une double réfutation. Et c'est le deuxième point. Quelles sont les objections possibles que l'on pourrait faire à ce récit? Eh bien, historiquement, il y a eu deux objections principales que les opposants à la foi chrétienne ou que des personnes se disant chrétiennes opposaient à l'historicité de cette naissance. Certains disaient, non, en fait, Joseph est quand même le père. D'une certaine manière, c'est une façon pieuse peut-être de nous dire que cet enfant est un peu spécial, mais Joseph est le père biologique de Jésus. Deuxième objection qui s'est faite, un autre que Joseph serait le père. Et les chrétiens ont essayé un peu d'embellir l'affaire, mais Marie est une prostituée. C'est écrit noir sur blanc dans des textes du judaïsme encore lus aujourd'hui, dans le Talmud. Et c'est une rumeur qui s'est répandue dans différents endroits que Marie, en réalité, aurait probablement eu cet enfant avec un soldat romain, par exemple. J'aimerais vous montrer que le texte, Dieu dans sa sagesse, nous offre ici des réfutations claires. Deux réfutations, en tout cas une double réfutation. D'abord, regardons ensemble la réaction de Joseph qui indique clairement que ce n'est pas lui qui a engendré Jésus. Verset 19. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Plusieurs choses ici. D'abord, Joseph est présenté comme un homme juste. Ce terme ici renvoie à une précision sur son caractère moral, son intégrité, son honnêteté, on pourrait dire. Ça exclut certainement l'idée d'un rapport en dehors du mariage. Ça n'aurait pas de sens que Matthieu mette côte à côte cet adjectif de juste pour nous dire ensuite que Joseph aurait transgressé la loi de justice de Dieu. Joseph est appelé juste et certainement, comme les justes de la Bible, il connaît la loi de Dieu, il connaît la loi de Moïse. C'est pour cela qu'il se proposait de répudier secrètement Marie, puisque même fiancée, si elle avait effectivement du coup eu une relation sexuelle avec un autre homme que son fiancé, ça constituait un même degré que l'adultère dans le mariage. La loi de Moïse l'enseigne, vous pourrez le lire dans Deutéronome 22, versets 22 à 25, pour ceux qui prennent des notes. Et la loi était claire, un mariage pareil, lorsqu'il était contracté, constituait un péché devant Dieu. Et donc, vous voyez, Joseph est un homme juste qui ne souhaite pas se placer dans une situation où la bénédiction de Dieu est retirée et c'est plutôt le déplaisir et la défaveur de Dieu qui se place au-dessus. Mais on voit aussi de l'affection de la part de Joseph. Regardez, le texte nous dit qu'il ne voulait pas faire d'elle un exemple. C'est une façon de dire qu'il ne voulait pas l'exposer à une honte publique, suivie probablement d'une exécution publique. Cette réaction ne peut se comprendre que dans la mesure où Joseph n'est pas le père. Sinon, ça n'a aucun sens. J'aimerais juste faire une petite parenthèse ici sur ce qu'on dit parfois de cette époque, que les hommes à cette époque étaient un peu crédules. Vous savez, on est à la période technologique et nous, nous ne sommes certainement pas crédules. La réaction de Joseph montre que pour lui, c'était difficile à avaler l'idée que ça vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas clair ici dans le texte, mais si nous lisons dans Luc, nous apprenons que Marie a passé un séjour de 3 mois en Judée. Pour quelle raison, si vous vous souvenez, c'est parce qu'elle rendait visite à Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Et très certainement, lorsque Marie réalise que ce que l'ange Gabriel est effectivement arrivé, qu'elle est enceinte, 3 mois plus tard, elle rentre à Nazareth, l'explique à Joseph, et on peut se douter que c'est pas la chose la plus évidente à croire sur parole, et que Joseph s'est certainement dit, mais Marie a dû faire quelque chose de pas juste. Alors ici, c'est moi qui suppute un peu, je suis en train de supposer en récoltant les différents éléments, mais c'est très probable, n'est-ce pas? Et du coup, la réaction de Joseph montre qu'il n'était pas prêt à croire tout et n'importe quoi. Les gens de cette époque n'étaient pas plus crédules que nous. Oh, ils avaient des superstitions, certainement, différentes des nôtres, nous en avons aussi. Mais ils n'étaient pas forcément plus disposés à croire au miraculeux. Ok. La deuxième réfutation concerne le fait qu'un autre que Joseph serait le père. Vous vous souvenez, ici, on vient de voir que Joseph, dans le texte, c'est évident qu'il n'est pas le père. Eh bien, lisez avec moi ce qui est dit au verset 18 à la fin, puis au verset 20. Fin du verset 18, on nous dit qu'elle se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Puis verset 20, l'ange est en train de parler et il dit « Car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. » Le verset 18 nous précise que ça s'est passé avant qu'ils fussent ensemble, souvenez-vous. Avant qu'ils aient habité sous le même toit et avant que le mariage ait été consommé, avant qu'ils aient même, du coup, été mariés. Cette précision n'est pas anodine, c'est bien pour orienter nos regards vers la personne du Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui a agi et qui est intervenu dans cette naissance, dans cette conception miraculeuse. Il s'agit ici de l'Esprit, et c'est ce même Esprit dont Luc nous parle lorsque Gabriel a dit à Marie, « L'Esprit de Dieu viendra au-dessus de toi, te couvrira de son ombre et tu concevras un enfant. » C'est ce même Esprit qui, au début de la création, souvenez-vous, se mouvait au-dessus du chaos avant de mettre de l'ordre et de l'harmonie dans la création. Et cet Esprit est appelé Saint, l'Esprit Saint, puis le Saint-Esprit. Nous avons vu que la réaction de Joseph montre qu'il est juste, n'est-ce pas? Il est tiraillé. Il aime Marie, mais en même temps, il aime la loi de Dieu. Il ne veut pas, du coup, faire quelque chose qui déplairait à Dieu. Il ne veut pas non plus nuire à la vie de Marie. Est-ce qu'il serait raisonnable de penser que le Saint-Esprit pousserait Joseph dans un mariage qui soit dans un contexte de péché? C'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit qui ne peut voir le péché sans le haïr. C'est l'esprit qui ne dit que la vérité et la justice. Et donc, il est inconcevable de penser que Matthieu ici veut nous communiquer l'idée que le Saint-Esprit aurait encouragé un mariage illicite, injuste. Je vous propose maintenant de voir le troisième et dernier point. Nous avons vu donc une triple affirmation. Un ange, un apôtre et un prophète nous disent que Jésus est né de manière miraculeuse. Nous avons vu une double réfutation qui nous est offerte par Dieu lui-même dans ce texte lorsqu'il a inspiré l'apôtre Matthieu. Ce n'est ni Joseph qui est le père, puisque le Saint-Esprit a agi bien avant que Marie et Joseph ne soient mariés et n'habitent ensemble. Et la deuxième réfutation, c'est que ça ne peut pas être un autre non plus que le Père. Ou ce n'est pas Joseph, pardon, à cause de sa réaction. Troisième point, une simple explication. Verset 22 jusqu'au début du verset 23. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. » Quelle est cette simple explication ? Ben, tu nous le dis, c'est afin que, explication, tout cela arriva afin que s'accomplisse la parole de Dieu. La raison, je dirais, la plus fondamentale, la plus simple, il y aurait d'autres raisons qu'on verra les fois prochaines, mais c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit parce qu'il est puissant pour l'accomplir. Et pour nous, ça doit être un encouragement lorsque nous lisons différentes exhortations à Dieu de nous confier en Jésus-Christ, de nous confier dans le salut qu'il prépare pour nous. Parce que de la même manière que Dieu a tenu sa parole pendant plus de 7 siècles, cette parole qui disait que le Messie naîtrait miraculeusement, il peut aussi préserver, tenir, maintenir et accomplir sa parole de salut pour nos âmes. Qu'a-t-il promis ? Eh bien, le verset 22 nous le dit, il a promis un fils. Voici, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. Qu'a-t-il donné ? Verset 25, un fils. Nous lisons que Joseph ne la connut point, c'est-à-dire qu'il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Dieu a promis un fils, il a donné un fils. À qui l'a-t-il promis ? Verset 22, encore. Voici, la Vierge sera enceinte. À qui l'a-t-il donné ? Le verset 18 nous le dit, le verset 25 aussi. À Marie, Vierge. Comment l'a-t-il promis ? Ou plutôt, comment a-t-il promis de le faire ? Eh bien, de manière miraculeuse, surnaturelle, puisque je reviens au verset 22, il n'est pas dit « Voici, la Vierge se mariera et avec son époux aura un fils », mais il est dit que c'est la Vierge qui sera enceinte et qui enfantera. Autrement dit, Dieu littéralement accomplit ce que nous voyons dans sa promesse. Une conception miraculeuse, comme le verset 20 nous le dit, ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. J'en viens à d'autres objections. Impossible, peut-être quelqu'un dirait. Cela est impossible. Bien, je réponds simplement que penser cela, c'est probablement du fait d'avoir un préjugé. Le préjugé que Dieu n'est pas tout-puissant pour accomplir ce type d'acte. Et si quelqu'un considère cela impossible, je proposerai à la personne de réfléchir davantage à la question de Dieu, et je suggère qu'elle ne connaît pas le Dieu créateur du monde, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Une autre objection peut-être serait « Mais si cela est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autour de nous d'autres miracles de ce genre ?» Bien, je répondrai ici qu'il y a aussi là un présupposé qui est faux, un préjugé qui n'est pas exact. Le premier, c'est que Le préjugé, ce serait que la Bible nous présenterait ces choses comme la norme. Mais pour les lecteurs de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, nous voyons que les miracles sont dans des périodes très particulières de l'histoire des hommes, de l'histoire de l'intervention de Dieu. Et que ce n'est pas dans toutes les pages de la Bible que nous avons des miracles, loin de là. Le deuxième préjugé qui pousserait une personne à dire « mais nous devrions du coup en voir aujourd'hui encore des miracles de ce type », eh bien, c'est de penser que Dieu serait un peu comme une machine à miracles. Ou peut-être comme le génie de la lampe. Non, nous parlons ici du Dieu créateur qui a créé toute chose dans sa pure liberté. Dieu est dans le ciel, nous dit le psaume, et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est libre, il n'est pas obligé. Et enfin, nous devons nous souvenir que la Bible nous présente les miracles non pas comme des choses aléatoires que Dieu fait de temps en temps, mais comme des événements qui viennent confirmer un message divin, une intervention particulière de Dieu dans l'histoire du salut. Autrement dit, si je prends cette image, l'histoire du peuple de Dieu serait ce texte et les miracles seraient un peu le stabilo que Dieu vient prendre pour souligner certaines parties de son message. Ils viennent attester la parole des prophètes et des apôtres. J'en arrive à la fin de cette prédication. Comme dit au début, il n'est pas possible d'être vraiment chrétien sans croire à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Car un chrétien croit aux prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Et Ésaïe, qui nous dit que Jésus est né miraculeusement, est un prophète qui a parlé de la part de Dieu. Un chrétien croit aux apôtres, qui sont les envoyés du Christ. Or, Matthieu est un de ces apôtres envoyés du Christ pour enseigner les croyants. Un chrétien croit aussi aux anges du Seigneur, qui sont au service de la foi des croyants. De la même manière que cet ange ici est venu aider Joseph avant qu'il ne prenne une mauvaise décision de répudier Marie, lui précisant que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Il n'est pas possible non plus d'être chrétien sans croire à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, car un chrétien véritable croit et connaît quelque chose de la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien véritable connaît quelque chose de la puissance du Saint-Esprit. Où est-ce que je veux en venir? Ce même Esprit divin qui a mis de l'ordre au premier jour de la création, cet Esprit de vie, comme l'appelle le Seigneur Jésus, c'est encore lui qui fait surgir la vie là où elle n'existait pas. Et comme en Marie, c'est lui qui a fait surgir la vie humaine du Seigneur là où elle n'était pas. Et enfin, c'est cet Esprit tout-puissant, si vous êtes chrétien, qui a fait surgir dans votre âme la vie de Dieu, qui vous a ressuscité spirituellement et vous a uni à cette vie éternelle qui est en Dieu. Si vous êtes chrétien, vous savez quelque chose de la puissance de cet esprit qui régénère, qui ressuscite les morts spirituelles et en fait des serviteurs et des servantes vivantes et vivants du Dieu vivant. C'est la vie même qui vient du ciel. Et donc un appel ce matin, si peut-être vous n'avez pas reçu cette vie qui vient du ciel. Si votre âme est encore dans cet état de mort parce qu'elle n'a pas été réconciliée à Dieu, voilà l'invitation du Seigneur à l'invoquer, à faire appel à lui. Psaume 50, verset 15. « Au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. » Vous êtes dans une grande détresse si ce matin, votre âme n'a pas été rendue vivante. Elle est dans un état, dans une condition de mort éternelle. Elle est donc dans la détresse et Dieu vous dit au jour de la détresse, invoque-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, invoque-moi? Ça veut simplement dire, appelle-moi. Fais appel à moi. Prie. Et j'aimerais suggérer, en lien avec la naissance du Seigneur Jésus, cette prière que l'on trouve dans le Cantique. Il est né le divin, plutôt il est né le roi du monde. Laissez-moi juste lire quelques extraits de ce cantique. Et peut-être voilà une piste de quelques mots que vous pourriez adresser à Dieu. Le premier couplet dit « Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. » Le deuxième couplet nous dit, et c'est ici, le troisième, pardon, c'est ici la prière que vous pourriez faire. « En notre âme, viens renaître. Ô Christ, elle a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître. » Toi qui es venu comme un humble enfant, toi le glorieux roi. À la terre, Dieu, au mystère, lui-même s'est donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, qui nous encourage, cette parole qui nous encourage à nous confier en lui, n'est-ce pas? Je te laisse la place suivante.